Badania europejskie.
Rozumienie tutaj Europy.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy tych Europisch.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Le Covid a changé bien des choses en Europe qui paraissaient pourtant immuables ou impensables. Par exemple, l'abandon, au moins provisoirement, des règles budgétaires, les fameux 3% de déficit public annuel. Ou le plan de relance de 750 milliards d'euros financé par un emprunt commun et qui se traduira par une dette commune aux 27, il est à lui seul une petite révolution au sein de l'Union européenne. Des initiatives, mais aussi des mots comme « souveraineté européenne » ou autonomie stratégique. Ils ne sont désormais plus tabous à Bruxelles, ce qui laisse espérer une évolution profonde des priorités de l'Union. Quant à l'Europe de la santé, elle est en train de naître en marche du coronavirus, certes encore très modestement pour l'instant. Mais la pandémie a aussi renforcé les inégalités. Les populations les plus fragiles et les plus précaires se sont encore appauvries et sont devenues plus vulnérables que jamais face à la récession. Comment le Covid a changé l'Europe? C'est le thème de cette émission et je vous présente les invités qui nous ont rejoints tantôt en studio, tantôt par téléphone. Covid-19 oblige. Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Vous êtes conseiller en affaires européennes et président du Mouvement européen France. Alors à chaque fois je dis quand même un petit mot sur le Mouvement européen qui vient d'avoir fêté son assemblée générale, en tout cas un moment fort de la vie de l'association.
Voilà, nous étions à Troyes le week-end dernier. Nous fêtons aussi les 70 ans de ce mouvement lancé après-guerre, hein, après la Deuxième Guerre mondiale. Par des militants qui croient que l'Union faisait la paix, fait la paix, et que maintenant elle fait la force.
Sandro Gozzi, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, je pourrais dire aussi. Vous êtes député européen sur la liste Renaissance Renew française, mais vous êtes aussi l'ancien ministre italien des Affaires européennes. Votre dernier livre, on va en dire un mot tout à l'heure, L'Acide, est paru aux éditions Saint-Simon. Et je sais pas, vous allez nous dire, on va voir, j'ai quand même un peu le sentiment que vous régliez un certain nombre de cas. Grégoris Girotsiofas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, professeur associé à la Sorbonne et directeur de recherche à l'INSERM, Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Vous êtes tout autant grec que français. Et à Berlin, nous rejoignons Claire de Mesmet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à la DGAP. J'aimerais bien que vous me le disiez. D'abord en allemand, puis après en français.
Mais très volontiers. La DGAP, c'est la Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik, qui se traduit par l'Institut allemand de politique étrangère.
Votre dernier livre, Claire, Idées reçues sur l'Allemagne, est paru au Cavalier Bleu. Et évidemment, merci d'être en ligne de Berlin. Nous ferons évidemment, comme chaque semaine, un détour par la rédaction du Courrier International cette semaine avec Sacha Mitchell. Sandro Gozzi, un petit mot sur votre livre. Il n'est pas très épais, une centaine de pages. Il s'intitule La Cible. Et La Cible, c'est vous, Sandro Gozzi. Alors, j'ai expliqué, vous êtes italien, mais vous êtes très francophone, très francophile. Vous avez fait des études en France. Voilà, c'est un peu votre deuxième patrie. Et vous êtes un Européen transnational. Vous avez été donc ministre des Affaires européennes dans votre pays, en Italie. Et puis aujourd'hui, vous êtes un eurodéputé sur une liste française. Mais évidemment, vous siégez au Parlement. Je serais tenté de dire de Strasbourg. Peut-être un peu de moins en moins de Strasbourg et peut-être de plus en plus à Bruxelles. Et ce n'est pas si facile que ça d'être un Européen transnational aujourd'hui encore en 2020.
Oui, je vous remercie. J'ai les titres là. C'est moi, mais c'est surtout l'Europe. Ce n'est pas mon livre, ce n'est pas les récits d'une victime, c'est les témoignages de mon engagement transnational. Vous avez rappelé un peu mon parcours. Je rappelle que j'étais candidat italien en France, donc en exerçant un droit que nous avons tous, en étant résident en France dans mon cas, mais nous avons tous en tant que citoyens européens d'être candidat et d'être élu dans notre pays. Mais à cause de ça, j'étais la cible des quatre campagnes violentes, agressives de la part des nationalistes, et pas seulement des nationalistes, mais aussi de quelques progressistes soi-disant européens hypocrites. Quatre campagnes entre l'Italie et la France. Et donc j'ai décidé de mettre cela en perspective, de raconter une trentaine de pages ces campagnes absurdes, ubuesques, dont j'ai fait l'objet des deux côtés des Alpes, mais surtout et saisir les moments pour lesquels nous sommes là à discuter avec vous par ailleurs, et les moments d'un grand changement européen pour partager avec les lecteurs, avec ceux qui sont intéressés, ma vision pour une Europe souveraine, démocratique et pour une politique transnationale qui aujourd'hui est encore plus nécessaire et un peu plus possible par rapport à il y a quelques années. Voilà. Et donc c'est C'est une sorte d'essai et justement, ça ne devait pas être trop long, mais j'espère qu'il peut y avoir quelques idées pour faire débat, au moins.
En tout cas, c'est le livre d'un Européen plus que convaincu, La Cible, je rappelle le titre de votre livre, La Cible, aux éditions Saint-Simon. Yves Bertoncini, le Covid a changé l'Europe, mais nous l'avons déjà dit dans cette émission, le Covid, avant d'avoir fait évoluer les choses, a souligné tous les travers de la vie européenne au début de la pandémie, donc début mars, le chacun pour soi a régné, fermeture anachronique des frontières sans aucune concertation, rétention des masques et des matériels sanitaires. On va pas refaire toute l'histoire, mais je dirais que ça avait plutôt très mal commencé d'un point de vue européen, cette pandémie, cette catastrophe du Covid.
Alors, laissez-moi d'abord regarder la face lumineuse de la planète européenne avant de venir à la face sombre.
Nous allons y venir, de toute façon, à la face lumineuse.
En simplifiant, sur le plan économique et financier, l'Union européenne, les Européens ont été plutôt flexibles, réactifs et même inventifs avec le plan de relance. Alors que, effectivement, sur le plan sanitaire, vous avez dit opérationnel, là, l'Europe a été désorganisée, régressive, presque désespérante. Mais quelle Europe ? L'Europe des États qui n'ont pas donné les compétences utiles et nécessaires à l'Union européenne en matière sanitaire et qui ont peiné à se coordonner pour ne pas dire qu'ils sont parfois affrontés et perdus dans des retours à contrôle aux frontières absolument stériles. Donc je crois qu'il faut regarder la globalité de la situation et bien dissocier économique et finance. Là, il n'y a rien de nouveau. Lors de la dernière crise, on avait déjà laissé filer les déficits, on avait déjà laissé les aides d'État, et tant mieux, se produire, même si là encore, il faut faire attention parce qu'il y a des pays comme l'Allemagne qui ont les poches profondes en matière d'aides d'État et d'autres qui les ont moins. Mais il y a eu cela, il y a eu la Banque Centrale Européenne qui a très bien réagi. Alors il y a eu une petite erreur à un moment, mais enfin globalement instruite des crises précédentes, elle a très bien réagi. La Commission Européenne, l'Eurogroupe ont mis sur la table des milliards d'euros, y compris pour financer le chômage partiel. La Banque Européenne d'Investissement est montée en ligne et puis on a eu ce fameux plan de relance. Donc moi je ne dirais pas que l'Europe s'est ressaisie sur le plan économique et financier. Elle a plutôt bien agi dans la continuité des crises précédentes. En revanche, et là je vais encore vous contredire, je pense pas que sur le plan sanitaire et organisationnel, elle se soit si follement ressaisie depuis le début. Même s'il y a eu quelques actions à souligner en matière de coopération sanitaire, de transfert de malades d'un côté et de l'autre, de transfert d'équipements médicaux.
Sandro Gozzi, les débuts de cette pandémie ont été très très mal vécus en Italie, qui ont reproché aux autres Européens, mais par exemple aux Français, un réflexe très très nationaliste d'un repli sur toi et de surtout pas partager ce qui pouvait l'être.
Oui, oui, oui. On a risqué gros cette fois-ci aussi en Italie avec cette crise. On a risqué la fin de l'Europe en Italie. L'Europe a été catastrophique pendant la crise financière. Elle a été aux abonnés absents pendant la crise migratoire. Et au début de la crise du coronavirus, l'Europe était absente et certains États ont carrément refusé l'exportation des produits médicaux vers l'Italie. Donc on a risqué vraiment de détacher complètement l'Italie de l'Europe. Et d'ailleurs, les Russes et les Chinois l'ont bien compris. Ils ont fait une propagande massive à faveur de Pékin et de Moscou et contre Bruxelles, contre Paris, contre Berlin, etc. Mais après, l'Europe a été là. Cette fois-ci, la réponse européenne a été tempestive, a été forte. Les plans de relance, c'est quelque chose sans précédent, qui est fort important parce qu'il y a des ingrédients de l'Europe que nous voulons, pour laquelle moi je me bats depuis longtemps et que les Italiens voulaient une dette commune européenne, des investissements communs. Et à cela s'ajoute une Europe de la solidarité qui cette fois-ci était là. Il faut penser à différents programmes pour le chômage, les programmes sûrs, c'est une assurance européenne qui s'ajoute aux protections pour les chômage social national. Les mécanismes européens de stabilité qui a finalement été transformé et mis à la disposition des États pour la santé. Bref, disons que cette fois-ci l'Europe a bien répondu, mais maintenant il faut mettre tout cela en œuvre. Et il faut faire en sorte que tout cela arrive véritablement sur tous les territoires, envers les entreprises, envers les familles. Et aussi, il faut travailler beaucoup plus sur l'aspect de l'Europe de la santé. Finalement, il y a eu quelques avancées dans les derniers jours, mais peut-être on peut en
parler. On va dire un petit mot un peu plus tard, notamment avec Grégory Yaroslavtsev. Claire de Mesmer, ça n'a l'air de rien comme ça, mais le jour où les Européens réunis en Conseil, les 27 chefs d'État, ont fait voler en éclats la sacro-sainte règle des déficits publics qui ne doivent pas dépasser les 3% du PIB. Alors, je sais que je vois Yves Bertoncini qui hoche de la tête, il n'est pas forcément d'accord, mais Claire de Mesmer, tout de même, pour les Allemands, c'était quelque chose de très important.
Oui, tout à fait. Pour l'Allemagne, c'est un vrai changement de position, puisque une des principales lignes rouges du gouvernement fédéral depuis des années, depuis des décennies, avec quelques petites exceptions près par certains moments, mais une des plus importantes lignes rouges en matière de politique européenne, c'est la question de d'un budget équilibré, premièrement.
Ce qu'on appelle le Schwarz-Null, c'est ça, hein.
Exactement, la Schwarz-Null, c'est un budget à l'équilibre pour les différents États membres. Berlin insiste régulièrement ou a insisté jusqu'à présent sur ce point-là. Et puis la deuxième chose, c'est un emprunt commun européen. On a une discussion franco-allemande sur cette question-là. Faut-il ou non emprunter sur les marchés au nom de l'Union européenne? Et c'est une discussion qui est très dure, puisque la France la pousse avec d'autres États, notamment du sud de l'Union européenne. L'Allemagne, avec les pays du Nord, pour l'instant, s'y est opposée farouchement. Et là, aujourd'hui, on a, depuis le mois de mai, on a un changement de position de l'Allemagne qui permet justement d'avoir une autre politique. Donc, du point de vue de Berlin, c'est en effet un changement de paradigme. La question que je me pose est de savoir si ce changement est durable ou non. Personnellement, je suis plutôt réservée sur ce point-là. Je sais qu'on a tendance à dire, notamment en France, qu'on est entré maintenant dans une autre logique, que l'Allemagne a enfin compris et qu'on va pouvoir à long terme avoir ce genre de politique. Personnellement, je vois ce changement de position comme une décision de circonstance, lié à la crise, lié aussi à des attentes de la part de l'économie allemande, mais je ne pense pas que nous sommes entrés dans une toute nouvelle phase avec des emprunts appelés à être pérennisés.
Alors c'est vrai que Angela Merkel a déclaré, c'était une phrase forte, une des phrases fortes qu'on retiendra, l'Allemagne ne peut pas aller bien dans une Europe qui, elle, irait mal. Alors évidemment, voilà, combien de temps ça peut durer cette explication Yves Bertoncini sur le fameux Schwarz-Null, évidemment, ça ne durera pas éternellement. Et peut-être que les Français, comme vient de nous l'expliquer Claire de Mesmer, prennent un peu leur désir, leur rêve pour des réalités.
Il y a au moins deux défis, ou peut-être deux malentendus européens, même si le plan de relance, c'est une très bonne nouvelle et il faut l'adopter pour de bon et le mettre en œuvre. Hein, ça, c'est clair. Mais ensuite, premièrement, le retour à un moment ou à un autre, aux engagements budgétaires et ces fameux 3% qui ne sont en rien dogmatiques, parce qu'encore une fois, la France les a très peu souvent respectés.
Elle n'est pas la seule.
Absolument. Mais la France a 7 sur 20 hein, sur les 20 dernières années. Il n'y a que deux pays qui ont moins, c'est le Portugal et la Grèce, 4 sur 20. La Suède et la Finlande, c'est 20 sur 20 quand même. Hein. Et l'Allemagne, c'est 13 sur 20. Donc voilà. L'erreur qu'on a commise la dernière fois, c'était pas de laisser filer les déficits. C'est pas la première fois qu'on laisse filer les déficits. Au moment de la crise financière, on les a laissés filer. En revanche, on a trop vite voulu revenir dans les clous. Ça, c'est l'erreur de la dernière fois. J'espère qu'elle est méditée et que cette fois-ci, on ne demandera pas aux États membres de revenir trop vite à leurs engagements budgétaires. Ça, c'est le premier sujet. Mais c'est pas le plus épineux. Le deuxième l'est beaucoup plus. Effectivement, la chancelière allemande a dit « on va emprunter en commun » pour subventionner tel ou tel pays, et notamment l'Italie, l'Espagne, qui en ont bien besoin. Donc ça, c'est vraiment un acte de solidarité majeur et bienvenu. Mais au fond, est-ce que c'est parce que face à ces circonstances exceptionnelles, il y a une réponse exceptionnelle, ou est-ce plus durable? Et là, il y a un énorme malentendu entre les Français et les Allemands, notamment. Parce qu'au fond, on peut très bien considérer que face à la crise de la zone euro, la crise grecque, eh ben, on a eu des fonds de sauvetage qui ont aidé la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne. Ça a duré ce que ça a duré. Et aujourd'hui, la parenthèse est refermée. Et tant mieux, hein, la parenthèse de l'Europe FMI. Et qu'il en va exactement de même de ce plan de relance qui, comme son nom l'indique, relance n'est pas éternelle. C'est pour quelques années. Je crois que c'est le consensus européen. En France, il y a des voix plus ou moins autorisées qui pourraient penser que non, bah pas du tout. On a ouvert une trappe. Ça y est, c'est magnifique. On va pouvoir, comme en France, emprunter, réemprunter.
On pourrait dire open bar un peu.
Voilà, au moment où il faudra rembourser, bah, qu'est-ce qu'on fera ? On empruntera pour rembourser les premières traites et tout ça durera éternellement. C'est d'ailleurs ce qu'on fait en France, hein, puisque la dette va filer à 115-120% de notre PIB. Pour rembourser notre dette précédente, on contracte une dette future. Là va arriver un débat très épineux entre Européens, notamment entre Français, Italiens, Allemands et bien d'autres. Mais j'allais dire, c'est pour un petit peu plus tard, puisque le remboursement de cet emprunt, il n'est souhaité, enfin organisé qu'à partir de 2028. Je glisse une dernière idée. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vaudrait mieux créer de nouvelles ressources propres.
Les fameuses ressources propres.
Eh oui, pour le budget européen, parce que ces nouvelles ressources propres, notamment en matière environnementale, elles permettraient d'abonder le budget et de rembourser les dettes contractées. Mais ça veut donc bien dire qu'il faudrait bien les rembourser à un moment ou à un autre.
Alors, on va pas faire une émission sur les ressources propres, mais c'est par exemple les idées qui circulent à Bruxelles ailleurs, c'est par exemple d'avoir une taxe carbone à la frontière extérieure de l'Europe, ou d'avoir une taxe pour les pays qui exportent des produits vers l'Europe en ne respectant pas les normes sociales, les normes environnementales. C'est un peu cette idée, mais pour l'instant, on est dans l'univers des idées, hein. On n'est pas encore dans l'univers des projets très très bien ficelés. Sandro Gozzi, vous avez expliqué à quel point au début les Italiens avaient été désappointés par l'attitude des Européens. Est-ce que dans un deuxième temps, cette idée de solidarité sur laquelle Yves Bertoncini a insisté a été perçue, comprise par les Italiens? Je veux dire, les Italiens se sont sentis un peu abandonnés. Est-ce que voilà, ce sentiment d'abandon, il est un petit peu derrière eux aujourd'hui?
Oui, sans doute. Grâce à cette réponse finalement à l'auteur, les débats en Italie, ce n'est plus si l'Europe est là, ce n'est plus qu'est-ce qu'il nous demande l'Europe de faire. Mais le débat, c'est voici ce que l'Europe nous offre. Est-ce que nous serons assez efficaces pour exploiter pleinement les opportunités que l'Europe nous offre pour la relance? Parce que finalement, l'Italie, elle sera le premier bénéficiaire du plan de relance. Entre prêts et subventions, ce sera 209 milliards qui iront à l'Italie, loin devant l'Espagne et la France. Donc maintenant, le débat, c'est est-ce que l'Italie sera à même d'organiser de façon efficace la gestion de ces ressources? C'est un véritable plan Marshall du point de vue italien. Et c'est pour cela que les nationalistes, mes amis, les amis que dont je parle dans les livres, ceux qui ont demandé de choisir ma nationalité l'année dernière parce que j'étais en tant que citoyen européen italien candidat en France, j'en parle aussi dans les livres La Cible, voilà, ils sont en difficulté. La post-fasciste Giorgia Meloni, oui. les pays d'importation Matteo Salvini, aujourd'hui sont en difficulté parce que l'Europe finalement est là. Je voudrais, si vous me permettez, commenter aussi ce qui a été dit sur la question 3%, règles budgétaires et nouvelles ressources. Moi, c'est vrai, le débat est-ce que c'est exceptionnel et temporaire, et ou est-ce que c'est cette nouvelle Europe d'incapacité d'investissement commun, d'incapacité d'endettement commun va rester? D'après moi, ça dépendra de l'efficacité du plan de relance. Moi, je suis persuadé que si le plan de relance va prouver son efficacité, si cette méthode, on démontre que cette méthode est la bonne méthode pour l'Europe, on ne pourra pas revenir en arrière, on ne pourra pas fermer la parenthèse et revenir au monde d'hier comme si rien ne s'était passé. Et là aussi, permettez-moi, je sais que mon ami Yves ne sera pas en accord avec moi, mais moi je trouve qu'une bonne partie des paramètres financiers, les 3%, ce sont des règles obsolètes, qu'il faut les revoir. Qu'il faut les revoir, ne fût-ce que pour favoriser les investissements dans la transition écologique, dans la transformation numérique et dans l'effort d'innovation. Nous n'allons pas approuver les plans de relance en tant que députés européens si, dans les plans de relance, il n'y aura pas un calendrier clair, contraignant, pour, dans les années qui viennent, 2021, 2022, 2024, 2026, l'introduction de ces ressources propres auxquelles vous faisiez référence, qui sont aussi des façons de faire de la justice écologique. Les entreprises européennes respectent les règles écologiques, les chinoises ou les brésiliennes ou les américaines, non, mais elles veulent importer dans notre marché, elles doivent payer une taxe carbone. Les géants du numérique doivent payer les impôts comme tous les autres, et donc nous voulons introduire une taxe numérique. Et vous voyez, ceci, c'est une façon aussi de faire de la justice fiscale écologique. Donc, redoublons les efforts pour bien exploiter les plans de relance, parce que ça peut être le début d'une nouvelle page.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
comment le Covid a changé l'Europe ou comment le Covid est en train de changer l'Europe. Nous sommes avec Yves Bertoncini, conseiller en affaires européennes et président du mouvement européen France, avec Sandro Gozzi, député européen à liste Renaissance et ancien ministre des Affaires européennes italien, avec Grégoris Gerotiafas, médecin et professeur associé à la Sorbonne et directeur de recherche à l'INSERM, que l'on n'a pas encore entendu, mais c'est l'affaire de quelques secondes, et avec Claire de Mesmet, chercheuse à la DGAP, son dernier livre, Idées reçues sur l'Allemagne, et est évidemment en ligne de Berlin. Avant de poursuivre notre débat, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Sacha Mitchell.
Bonjour Daniel.
Autre conséquence du Covid en Europe, les restrictions de liberté avec le confinement, aujourd'hui le couvre-feu. Partout en Europe, il est plus difficile de se rassembler ou de se déplacer, ce qui ne va pas sans récrimination.
Et oui, Daniel, en témoignent les dernières restrictions en date, la fermeture des pubs en Écosse, limitation de déplacement à Liverpool ou encore l'état d'urgence à Madrid en Espagne. Les mesures sanitaires prises voilà plus de 6 mois s'éternisent et cette situation pose problème. C'est ce que dit l'auteur suédois Johan Norberg dans l'hebdo britannique The Spectator. D'abord, pointe-t-il, ces restrictions qui paraissaient impensables dans nos démocraties libérales, il faut bien le dire, ont été mises en œuvre à la hâte et sans débat. Au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays, le raisonnement invoqué a évolué depuis mars. D'abord, le confinement a été instauré pour gagner du temps et permettre aux services de santé de se préparer. Puis, il est devenu nécessaire pour, je cite, « aplatir la courbe ». Enfin, quand la courbe des infections est remontée en flèche ces dernières semaines, les restrictions sont revenues en force. Dans ce contexte, il n'en fallait pas plus aux régimes illibéraux du continent pour réaliser leurs rêves, regrette le Suédois. En Hongrie, par exemple, Viktor Orban s'est débrouillé pour obtenir de son docile parlement le droit de gouverner par décret, et il en a profité pour autoriser les arrestations pour mensonges sur le virus. Et puis, un peu partout, les frontières se sont refermées. Les Français ont toujours pensé que la mondialisation allait trop loin, mais plus étonnant, ces derniers mois, ce sont les Allemands qui ont changé de position. Angela Merkel estime ainsi que la pandémie a révélé la nécessité de relocaliser en Europe. Des restrictions conçues à la hâte font aujourd'hui du tort aux travailleurs et à la production, souligne encore Johan Norberg. Quand la Pologne a fermé ses frontières, mi-mars, des ouvriers n'ont plus eu la possibilité de rejoindre la République tchèque voisine où ils travaillaient. Dans ces conditions, le Suédois juge inévitable un recul de la mondialisation en Europe. L'extension des pouvoirs de l'État et l'accentuation des tendances protectionnistes semblent presque acquises. Peut-être que le Royaume-Uni se retrouvera-t-il d'ailleurs avec un accord de commerce beaucoup moins ouvert sur le monde que certains partisans du Brexit ne l'avaient imaginé. Mais pour Johan Norberg, libéral convaincu qui plaide pour une rouverture de nos sociétés au plus vite, une question urge désormais. Jusqu'à quand les réductions de liberté vont-elles durer en Europe ? Après une crise, en général, les États renoncent à certaines de leurs nouvelles prérogatives, mais pas à toutes, avertit-il. Les nouvelles mesures ont créé un précédent et de nouvelles forces politiques puissantes.
Merci Sacha Mitchell, Courrier International, l'hebdo et Courrier International, le site bien évidemment. Yves Bertoncini, effectivement, ça a bouleversé des tas de choses, ce Covid. On a vu que ça fait boucher les institutions européennes, les chefs d'État européens, et puis il y a les Européens, les citoyens européens qui s'adaptent comme ils peuvent, et certains quand même avec beaucoup de difficultés.
Oui, alors c'était l'unité dans la subsidiarité, en même c'est un défi sanitaire qui nous concerne tous, mais à des degrés moindres, et puis aussi dans la réaction, les États membres étaient plus ou moins bien préparés, bien organisés pour y faire face. C'est vrai que l'une des leçons qui en sera tirée certainement, c'est qu'il faut notamment ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en matière sanitaire, c'est-à-dire il faut pas que tous les médicaments dont on a besoin viennent du même pays ou de deux pays. Donc il y aura des redéploiements à l'intérieur desquels il y aura quelques relocalisations sur le sol européen. Mais pour le reste, ce qui est resté navrant, je trouve, c'est cette idée, cette mystique des frontières nationales qui, elle, n'est pas nouvelle, hein. Qui a conduit à entraver les frontaliers, entraver parfois le transfert des médecins, des patients eux-mêmes.
Et les frontières ont été parfois même régionales. Dans un pays comme l'Allemagne, on aura l'occasion d'y revenir dans quelques instants.
Premier réflexe, la frontière n'est pas une belle barrière face au virus. Voilà. Et donc, on est encore en difficulté sur ces sujets-là. On a quand même eu des situations absurdes où les Strasbourgeois pouvaient venir à Paris où il y avait vraiment des risques d'infection majeure, mais en revanche, ils pouvaient pas aller de l'autre côté de la frontière en Allemagne, où là, la situation était plus saine. Donc, c'est là-dessus qu'il y a le plus de progrès à faire, même si, hélas, dans les périodes de crise, il y a quand même toujours une prime aux bonnes vieilles frontières, fussent-elles régionales comme en Allemagne, à rebours de toute logique, sanitaire et européenne.
Grégory Jerotiafas, la santé n'est pas une compétence européenne, en tout cas ne l'était pas avant cette pandémie. Elle ne l'est, bon, on va le dire un petit peu, ça s'arrange un petit peu, il y a des petits pas dans la bonne direction, mais en tout cas elle n'est pas, elle a été au centre des préoccupations des Européens, cette compétence santé. La santé, Grégory Jerotiafas, vous qui êtes à la fois directeur de recherche à l'INSERM et médecin hospitalier, la santé est quand même une grande absente en Europe.
Oui, ça c'est vrai, parce que la santé aussi, c'est les victimes de différentes restructurations et restrictions budgétaires. Mais en même temps, grâce à ces problèmes, nous avons réalisé l'amplitude du problème et des conséquences du confinement. Et la question qui se pose même aujourd'hui à Paris, après les déclarations du président de la République hier, est si on est condamné finalement pour un confinement ou les cycles de confinement ou de couvre-feu éternel jusqu'au moment où le vaccin arrivera. Et la réponse est non. Et la réponse est non parce que comme la santé, c'est l'épicentre de cette épidémie qui a conduit aux problèmes financiers que vous avez discuté tout à l'heure, la science médicale a progressé depuis l'initiation de cette épidémie. Et déjà, il faut accepter que le confinement que nous avons appliqué en mars, on l'a fait parce qu'on ne connaissait pas la maladie de Covid. Et on ne connaissait pas les caractéristiques du virus. Nos connaissances étaient très limitées. Alors, c'était le seul moyen sur lequel la science médicale et l'épidémiologie a aidé les États d'implémenter le confinement. Et comme ça, nous avons gagné, nous avons sauvé des vies. Je vous donne, si vous me permettez, un exemple. En Grèce, pendant la période depuis le début de l'épidémie, on a compté 500 malades, 500 décès. Si on multiplie par 6, qui est l'équivalent de la population grecque à la française, ça nous fait au total 3000 décès en Grèce, pour un pays équivalent à une situation équivalente à la France. Et malheureusement, en France, nous avons compté 30 000 décès parce que nous n'avons pas appliqué le confinement très tôt. C'est ça le bénéfice que nous avons eu par le confinement et le coût, bien sûr, c'est le coût financier. Et les coûts que nous avons au niveau de notre mode de vie.
Alors, il y a sûrement d'autres explications au fait qu'il y a eu beaucoup moins de victimes en Grèce qu'en France, proportionnellement, bien évidemment. C'est le fait que la Grèce est un peu périphérique et n'est pas, par exemple, l'aéroport d'Athènes n'est pas un hub international comme l'est, par exemple, celui de Paris, de Londres ou d'ailleurs encore.
Tout à fait, mais je ne vais pas imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer en France si on n'avait pas le confinement. Et c'est ça que nous avons gagné. Alors, depuis quand même, nous avons avancé notre connaissance. Nous connaissons aujourd'hui quels sont les malades à risque de mourir et quels sont les malades à risque de développer un Covid sévère. Mon groupe, par exemple, à l'INSERM, a développé, a mis au point un score pour une identification très précoce des malades à risque d'aggravation. On peut identifier 80% des patients à risque d'une trajectoire défavorable. Et ce qui, on peut se permettre d'appliquer des traitements plus ciblés est plus personnalisé et c'est assez tôt.
Est-ce que vous diriez, Grégory Jerotiafas, qu'il y a eu un progrès, une marche commune européenne dans l'échange de ces informations, dans la prise de conscience européenne, que l'expérience de la Grèce a servi aux Français, que l'expérience des Allemands a servi aux Suédois, etc., etc.
Bien sûr, bien sûr. On a deux indices sur ça. Déjà, la décision des pays européens, je prends l'exemple couvre-feu d'aujourd'hui. C'est une réaction très précoce. Parce que ce que nous avons appris par l'épidémie est que si on applique de manière précoce les mesures de restriction, on peut contrôler la propagation du virus. Mais aussi, on a appris au niveau européen que la pollution de l'environnement, par exemple, est considérée comme un cofacteur d'aggravation et de mortalité du Covid. Alors, quand on parle pollution atmosphérique, on parle de villes industrialisées, on parle des environnements urbains qui sont chargés avec des polluants et qui aggravent l'évolution des malades de la même manière à Paris ou à Berlin ou à Athènes. Alors, c'est une politique environnementale commune qui doit être développée basée sur cette nécessité de contrôler l'évolution défavorable des patients. Et la troisième chose, c'est le traitement. Au niveau européen maintenant, nous avons des recommandations. Je vous donne l'exemple des recommandations pour la gestion du traitement antithrombotique chez les malades vasculaires qui a été issu par un organisme, par une fondation européenne. Moi, j'ai eu l'honneur de coordonner ce travail. Et dans lequel nous avons introduit les anticoagulants dans la gestion des malades Covid. Je veux dire que nous avons fait des avancées coordonnées au niveau européen, au niveau de la gestion et des acteurs de la santé qui doivent être utilisés par les instances européennes aujourd'hui.
Merci Grégory Jourdiafas pour ces précisions un peu sanitaires qui nous échappent un peu trop. Ce qui a changé un petit peu, c'est le budget de la santé. Hein. Il faut redire que encore une fois, la santé n'est pas une compétence européenne. C'était 0,04% du budget européen. C'est en train de devenir 0,16%. C'est multiplié par 4. Voilà, ça, en termes de millions d'euros, ça fait un grand changement, mais ça reste quand même un budget très très faible par rapport au reste des préoccupations de l'Union européenne. Claire de Mesmet, cette prise de conscience des manques finalement les molécules essentielles étaient fabriquées tantôt en Chine, tantôt en Inde, que le paracétamol, finalement, il était très peu fabriqué en Europe, pour ne prendre que ces exemples qui sont évidemment très très partiaux. Est-ce qu'il y a eu cette prise de conscience aussi en Allemagne qu'il fallait peut-être relocaliser? Est-ce que c'est un mot tabou, c'est un mot grossier en Allemagne ou pas?
Un mot grossier, peut-être pas tout à fait, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de mal avec ce terme-là pour une question de, en particulier de culture politique, où on considère que les questions économiques sont le mieux traitées par les acteurs économiques et pas nécessairement par l'État. Donc là, on a une vraie différence d'approche par rapport notamment à la France. C'est la raison aussi pour laquelle en Allemagne, on était jusqu'à présent relativement réticent à parler de souveraineté européenne. Ça veut dire quoi, souveraineté européenne? Qu'est-ce que les Français entendent par là?
C'est un mot que Emmanuel Macron emploie tout le temps et depuis son élection. Hein.
Oui, exactement. C'est un terme, c'est une expression qu'Emmanuel Macron a prononcée dans son discours de la Sorbonne, donc dès septembre 2017, et qui en Allemagne n'a jamais vraiment pris. Et là, avec la crise, eh bien, il y a cette prise de conscience dont vous parlez, et on commence à parler. Alors, souveraineté, on a toujours un petit peu de mal, mais en tout cas, on commence à parler d'indépendance, d'autonomie stratégique, de l'Union européenne. Et la prise de conscience est liée en particulier à la position de la Chine et à la dépendance, au constat que la dépendance européenne des Européens vis-à-vis de la Chine pose problème. Donc ça vaut évidemment, ou ça a valu, ça vaut encore pour l'accès à du matériel sanitaire, médical, mais je crois que cette prise de conscience est beaucoup plus générale. Elle implique aussi des dimensions de sécurité. Est-ce que les Européens sont aujourd'hui en mesure d'assurer leur sécurité seuls, de manière autonome? La réponse est évidemment non. Donc aujourd'hui, il y a cette réflexion en Allemagne. Donc on en est vraiment au stade, pour l'instant, de la discussion. Évidemment, il n'y a pas encore de stratégie, justement, pour la développer. Mais je crois qu'il y a là quelque chose de... Il y a eu une impulsion qui, pour le coup, est durable et qui commence à se développer dans différents cercles, notamment dans les cercles gouvernementaux. Alors, pour répondre à votre question sur la relocalisation, là aussi, voilà, c'est compliqué. On parle en Allemagne beaucoup plus de diversification. Yves Bertoncini disait tout à l'heure ne pas mettre tous ses œufs en termes de médicaments dans le même panier, c'est un peu ça. L'idée est de diversifier les chaînes de production pour ne pas dépendre uniquement d'un seul pays, à savoir la Chine. Et puis, cette question de la relocalisation, vue d'Allemagne, est plutôt ponctuelle, donc vraiment liée à quelques domaines clés stratégiques dans le domaine médical, dans le domaine du digital, évidemment, puisque la sécurité, c'est aussi les questions numériques, dans le domaine environnemental, etc. Donc, on a identifié quelques sujets clés, mais on ne parle pas d'une relocalisation industrielle comme stratégie globale.
Un peu de made in Europe, mais pas trop. C'est un peu ça, si je résume votre pensée. Claire de Mesmet.
Disons que l'objectif n'est pas d'avoir une production européenne à tout prix. Je rappelle d'ailleurs que l'industrie allemande est en plutôt bonne position par rapport à d'autres industries, et en particulier à l'industrie française, où l'Allemagne a moins délocalisé, où on fabrique encore beaucoup, beaucoup en Allemagne, le fameux « made in Germany ». Mais en tout cas, il ne s'agit pas de relocaliser ou de produire à tout prix en Europe, il s'agit de maîtriser ou d'avoir le contrôle de certains produits qui sont existentiels, en fait, qui sont existentiels en termes de santé, en termes de sécurité. Donc là, on touche vraiment à des éléments au cœur de la vie humaine.
Hubert Tanchini, l'idée de la relocalisation du Made in Europe, c'est une idée plus française qu'allemande. Alors, je vais citer Hubert Tanchini dans le texte et dans un papier que vous avez publié ou une interview à laquelle vous avez répondu. Et vous dites, la bataille d'aujourd'hui, ce n'est pas le paracétamol, mais l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper d'axe stratégique. Il y a les 750 milliards de ce plan de relance, ils vont servir à, comme on dit, par définition, relancer l'économie européenne qui est en récession, rappelons-le, mais il faut pas se tromper d'axe stratégique. C'est un peu ce que vous dites avec plutôt l'intelligence artificielle que le paracétamol.
Si on fait de la sécurité d'approvisionnement, c'est bien de relocaliser
un
certains
peu de paracétamol, un
segments, certains produits, et en réalité de redéployer, parce qu'il faut pas tous les mettre en Chine, mais ça peut dire qu'on en met au Vietnam, au Maghreb, en Europe centrale et un peu en France, et pourquoi pas en Allemagne. Mais si on fait de l'économie, c'est vrai qu'il faut mieux regarder les innovations du monde de demain plutôt que d'essayer de récupérer ce qui est parti ailleurs pour de bonnes raisons. C'est moins cher. Et donc, si on relocalise, ça peut être plus cher. C'est aussi parce qu'on vend à certains pays, c'est parce qu'on leur achète des produits qu'on peut leur vendre. Ça va dans les deux sens. Donc, ce débat sur les relocalisations, il est lourd de malentendus, là encore, d'ambiguïté. C'est vrai qu'en France, il est posé de manière particulièrement intense, parce qu'on a un problème, mais qui est un problème franco-français. Dans la même Union européenne, même marché commun, même union douanière, même zone euro, la France a une industrie qui équivaut hors construction à environ 13% de son PIB. La moyenne européenne, c'est 19%. L'Allemagne, c'est 25%. L'Italie est aussi au-dessus de la moyenne européenne, d'ailleurs. Ça prouve bien qu'il y a des sujets franco-français, qu'il faut prendre des décisions franco-françaises. Mais c'est vrai que quand on essaye de transférer ce débat au niveau européen, dans des pays comme l'Allemagne, pour qui ça va pas si mal, même si, encore une fois, sur le côté sécuritaire, l'Allemagne est d'accord pour prendre certaines décisions, être moins dépendant et vulnérable vis-à-vis de pays comme la Chine sur certains segments de produits. Eh bien, quand on porte le débat au niveau européen, il faut le faire avec précaution, sans, de manière offensive, mais sans grandes illusions. Moi, je dirais qu'au-delà de la crise du Covid, il y a deux dynamiques qui sont porteuses. D'abord, c'est la dynamique géopolitique. C'est vrai que si la Chine devient un rival systémique, c'est ce qu'ont dit les chefs d'État et de gouvernement, il faut peut-être considérer la manière dont on commerce avec elle sous un autre angle. Et puis, il y a aussi la dynamique protectionniste entretenue par Donald Trump. Alors, on verra ce qu'il en sera d'ici quelques semaines, s'il reste ou pas. Et puis, surtout, il y a la dynamique environnementale, climatique. Oui, alors ça, elle est portée par la Commission européenne, hein, c'est le premier priorité, pacte vert européen. Ça, en effet, ça peut justifier qu'on localise, sinon qu'on relocalise, davantage de production en Europe, simplement parce que le coût carbone de tout cela est déraisonnable. Ça peut justifier qu'on fasse moins d'accords commerciaux, par exemple UE-Mercosur, parce que c'est pas bon pour la planète. Et ces deux dynamiques-là sont peut-être plus porteuses de localisation, de développement d'investissement sur le sol européen. Vous dites made in Europe, pas que made in France, donc, même s'il faut évidemment du made in France, que les leçons qu'on pourra tirer de la crise du coronavirus.
Sandro Gozzi, un petit mot sur cet aspect de relocalisation. Est-ce que ce Covid, quelque part, je vous pose la question différemment, ça va marquer un recul de la mondialisation d'un point de vue européen ou pas, selon vous?
Ça va changer les contextes, ça va changer la donne. Permettez-moi de dire que cette idée de souveraineté européenne avance, et je m'en réjouis, et elle est même dans les documents officiels de la présidence allemande du Conseil de l'Union européenne. Donc vous voyez combien, en peu de temps, les Allemands ont évolué. Je m'en réjouis pour la chancelière. Je crois que quelques conseillers de la chancelière a eu une crise cardiaque quand il a dû écrire la souveraineté européenne. Mais bon, il sera soigné depuis. Donc ça, c'est sans doute une avancée importante. La globalisation va être de type différent. Et elle va être, je dirais, beaucoup plus compétitive du point de vue systémique. Moi, je crois que la Chine, c'est le grand danger de l'Occident aujourd'hui. Je crois que le représentant Borrell est trop prudent vers la Chine.
Joseph Borrell, un petit mot.
Les représentants pour la politique étrangère de l'Europe dans le monde. Il est trop prudent vis-à-vis de la Chine. Et je me semble, par contre, qu'au niveau des leaders européens, au niveau de l'opinion publique, de la presse, on est en train de sortir de cette naïveté vis-à-vis du projet chinois. Le projet chinois, c'est un projet hostile aujourd'hui vis-à-vis des Européens et vis-à-vis de l'Occident. Et ils ont baissé les masques de façon flagrante et inattendue pour moi dans la façon dont ils ont géré les Covid-19 en Chine et avant l'omerta, après la répression, et puis avec la propagande inacceptable qu'ils ont fait dans certains pays européens et notamment en Italie. Donc il faut se réveiller. Ceci aussi fait partie de l'autonomie industrielle européenne. Ça ne veut pas dire être agressif, mais être un moyen de pouvoir tenir une compétition qui, malheureusement, n'est pas basée sur le respect mutuel des règles communes. Parce que nous avons des concurrents internationaux qui ne respectent pas les règles. La Chine viole régulièrement les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Le Brésil viole régulièrement les règles de la transition écologique des accords de Paris, la raison pour laquelle nous, ma délégation Renaissance, a voté contre l'accord avec les Mercosur au Parlement européen il y a 2 semaines. Donc, vous voyez, je crois que nous avons intérêt à garder un dialogue commercial, à promouvoir les commerces, mais ça doit être un commerce plus équitable, plus juste, plus loyal, et nous devons aussi avoir les moyens de nous défendre dans un monde qui, je répète, c'est un monde des blocs régionaux. Et donc, voilà les thèmes de l'autonomie industrielle européenne qu'il ne faut pas confondre avec l'autarcie nationale. Parce que quand on entend ces discours sur la déglobalisation ou sur la réduction de la globalisation, il y a certains nationalistes qui voudraient nous renfermer dans les frontières nationales et revenir à une nouvelle sorte d'autarcie nationale du XXIe siècle. Ce n'est pas du tout ça. C'est pour cela que nous devons développer une capacité d'avoir notre politique industrielle au niveau européen. L'enjeu est là et, sans doute, l'intelligence artificielle, la transition écologique sont les 2 axes majeurs. C'est pour cela que les plans de relance doivent destiner 20% des ressources au numérique et 37% des ressources à la transition écologique. C'est là la direction vers laquelle nous devons aller.
Claire de Mesmer, il y a un petit sujet que j'aurais quand même abordé avant que cette émission se termine. C'est celui de la liberté de circulation avec des frontières qui sont réapparues, qui sont refermées un peu dans le désordre. Est-ce que le Covid-19 remet en cause l'espace Schengen ou pas, selon vous?
Alors là, je ne pense plus aujourd'hui. Je pense qu'on a tous compris que ce qui s'était passé avec la réintroduction des contrôles aux frontières de façon unilatérale et soudain et irrationnelle, que ça n'allait pas et que ça ne devait plus se répéter. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'ensemble non seulement des chefs d'État et de gouvernement en Europe, mais pratiquement tous, mais aussi les citoyens ont compris que la priorité devait être à garantir cet espace de libre circulation. Par contre, moi, j'ai trouvé ça vraiment choquant de constater que justement qu'on avait un retour des crispations, des peurs, et que tout ça s'est concentré sur la frontière. Revenir à des contrôles aux frontières était une décision qui n'était absolument pas justifiée d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue médical, mais on avait affaire à des éléments irrationnels, à des reproches mutuels très durs. Hein. On a entendu parler à nouveau des boches du côté français, des sales français du côté allemand, alors qu'on parle d'une région transfrontalière, la région franco-allemande, qui est extrêmement intégrée, où français et allemands vivent ensemble au quotidien. Donc, moi, je me suis vraiment beaucoup interrogée sur ce retour, justement, de ces crispations, de ces peurs, hein, et je pense que, qu'en fait, on n'a pas, le travail est loin d'être achevé et qu'il va encore falloir pas mal travailler sur ce sujet-là.
Hubert Antony, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Autre conséquence de ce Covid-19, le chômage s'accroît. Il touche les plus jeunes, les plus précaires, qui étaient déjà les plus pauvres. Alors, est-ce que dans ces conditions, est-ce que cette crise sanitaire économique va nous permettre ou non de rebondir et comment? Parce qu'il y a beaucoup de laissés pour compte dans cette crise, des millions et des millions de jeunes précaires qui avaient déjà un peu de mal à s'insérer dans le monde d'aujourd'hui.
Je crois que c'est pour ça que le plan de relance s'appelle Nouvelle Génération, Next Generation EU en mauvais français. C'est parce qu'il y a la conscience que les jeunes paient assez peu du point de vue de la maladie et des décès, mais ils paient du point de vue économique et social, et qu'il faut donc les aider. Alors l'Union européenne va faire ce qu'elle pourra. Les États membres prennent des décisions, encore récemment en France, hein, la décision de couvre-feu, qui dérange la jeunesse, qui l'appelle à la responsabilité en même temps. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile. En France, il y a eu beaucoup d'aides d'État, hein, pour favoriser l'insertion des jeunes sur le marché du travail. C'est une période qui est difficile et dont il faut souhaiter qu'elle ne dure pas longtemps. Il y a une autre inégalité qui va apparaître, c'est entre États de l'Union européenne. Parce que là encore, hein, les efforts qui ont été faits, le plan de relance, c'est pour soulager des pays qui souffrent. Je pense notamment à l'Italie. Tout cela, sur le moyen terme, risque de creuser encore un tout petit peu les divergences, hein, notamment au sein de la zone euro. Il faudra regarder tout cela de manière très très attentive une fois que le plus fort de la crise sanitaire sera derrière nous.
Entre les frugaux, plutôt le nord, et les dépensiers, plutôt le sud, entre l'est et l'ouest, parce que évidemment il y a les divisions européennes évidemment persistent avec et après le Covid, et persisteront après le Covid.
Oui, elles auront pu s'élargir, même encore une fois, il y a une solidarité, et tant mieux, qui est à l'œuvre. Mais si on en revenait à l'origine de ce qui s'est passé, les pays qui avaient tenu leurs finances publiques, ils avaient plus de réserves au moment où la crise est arrivée. Et donc, pour eux, ils considèrent que, bien sûr, ils doivent aider les autres parce qu'il y a une interdépendance. Et c'est ce qui nous sauve. L'interdépendance économique, l'interdépendance humaine. On peut toujours se faire plaisir en rétablissant des contrôles aux frontières. Mais quand on a vu que les camions, les frontaliers, les médecins peuvent plus passer, eh ben, à ce moment-là, on rouvre un tout petit peu les frontières. Donc, cette interdépendance, elle pousse les Européens. C'est la fameuse solidarité de fait qu'évoquait Schuman, hein, dans sa déclaration. On crée des réalisations concrètes, le marché unique, la zone euro, qui de fait entraîne une solidarité de fait qui parfois est un peu à contre-cœur. Mais pour autant, une fois qu'on fait tout ça, il faut que le plan de relance fonctionne, il faut qu'il soit adopté, qu'il soit mis en œuvre, que l'argent arrive. On devra regarder le paysage après la bataille, et bien sûr qu'on verra que, par exemple, en termes d'endettement, il y aura des pays qui auront laissé filer, y compris la France, très largement les choses, tandis que d'autres auront fait ce qu'il fallait, hein. C'est bien sûr en sortir de la rigidité du 0%, là on parle pas du 3%, mais qui après la tempête seront en meilleure situation. Et donc il faudra à nouveau s'attaquer à cette question des divergences macroéconomiques et aussi sociales, hein. Vous avez évoqué les taux de chômage au sein de la zone euro, mais j'allais dire, si c'est le mot de la fin, à chaque jour suffit sa peine.
Le risque, ce serait évidemment que des pays redémarrent plus vite et laissent les autres un petit peu en arrière.
Mais c'est ce qui va se passer, très certainement, et donc c'est pour ça qu'il faudra regarder. La gestion de la crise sanitaire en Allemagne a été assez bien faite, je trouve. Ils ont limité les dégâts, c'est le cas de le dire, et donc pas seulement les dégâts sanitaires, mais les dégâts économiques et financiers et sociaux. Et donc bien sûr que ce sont des pays qui risquent, c'est pas un risque, c'est une opportunité de repartir plus vite et plus fort que leurs voisins. Et donc on va pas quand même le leur reprocher, hein. Simplement, il va falloir donc reposer la question de la coexistence au sein de la même Union européenne de pays qui s'en sortent de manière, j'allais dire, diverse. Y compris face à la crise du coronavirus.
Eh bien, c'est le mot de la fin. Merci Hubert Antony, merci de tous les quatre d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Hubert Antony, Sandro Gozzi, Géruris Jérôme-Zerfas, Claire de Mesmet et évidemment Sacha Mitchell de Courrier International. Réalisation Guillaume Munier. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce Carrefour de l'Europe et tous les autres, le podcast RFI.fr ou tout simplement via votre moteur de recherche préféré qui peut être Quant, le moteur de recherche européen. On reste en contact via Facebook et Twitter, Daniel Desesquelles, où que vous soyez en Europe ou dans le reste du monde. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.